de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
18h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus à cette édition. Rapport 2022 de l'inspection générale d'État. Il ressort du document présenté hier au vice-président de la République que 225 missions d'audit et de contrôle ont été réalisées par les agents de l'IGE. Des détails dans cette édition. Le procès sur le trafic de cocaïne et fraude fiscale se poursuit. Les inculpés entendus hier au pôle pénal économique et financier d'Abidjan nient toute implication. Et ailleurs sur le continent, en Centrafrique, la famille du député d'opposition Dominique Yandoka plaide pour une prise en charge médicale de l'homme politique. En sport, le trophée de la CAN 2023 présenté hier aux populations d'Ebimpe par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. L'inspection générale d'État a procédé hier jeudi à la remise du rapport des activités réalisées au cours de l'année 2022 au vice-président Tiemoko Meilekone, représentant le chef de l'État. Ce rapport, qui a pour but de rendre compte des missions d'inspection, de contrôle et d'audit interne effectuées dans les services publics et parapublics, a été présenté lors d'une cérémonie solennelle à la présidence de la République. Linda Ballier pour le compte-rendu.
Avant de remettre ce rapport d'activité 2022, l'inspecteur général d'État Waoundoli Théophile a ressorti quelques points, non sans relever des difficultés.
De manière générale, les organes de contrôle de l'ordre administratif ont réalisé au total 225 missions de contrôle au cours de l'année 2022. Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés, commençant par l'IGE. Le besoin en matière de ressources humaines s'est cruellement posé. L'IGE disposait en 2022 d'une équipe opérationnelle de 30 inspecteurs et auditeurs contre 55 prescrits. Il a été aussi relevé l'insuffisance du nombre d'inspecteurs dans les IGM.
Un taux de 70% des recommandations a été mis en œuvre. Cependant, des efforts restent à faire selon l'inspecteur général à Waoundoli.
Il y a au total 102 recommandations. Sur ce nombre, 71 ont été mises en œuvre, soit une réalisation de 70%, qui est en hausse par rapport à 2021, qui était 67%, mais surtout en grande hausse par rapport à il y a à peine 5 ans, où on était à 40% de réalisation.
Pour sa part, le vice-président Tiemoko Meli a assuré rapporter fidèlement les mentions de ce rapport au chef de l'État.
Je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli. Je voudrais vous assurer que les constats et les dysfonctionnements relevés dans les rapports que je viens de recevoir, ainsi que les recommandations, les doléances formulées, feront l'objet d'un compte-rendu fidèle à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Le vice-président Tiemoko Meli a invité in fine tous les responsables administratifs à obligatoirement rendre compte de leur gestion.
Situation des déguerpis de Boribana et de Jesco. Le gouvernement a annoncé des mesures d'accompagnement à l'endroit de ces populations à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024. Pour Kone Kalilou, représentant des populations déguerpies du quartier Boribana, ces mesures viennent comme un soulagement, même si, estime-t-il, le gouvernement peut mieux faire. Il est en ligne avec Mel Emmanuel.
On a eu connaissance de ces mesures-là dans le journal télévisé de 20h. Je pense que ces mesures-là vont venir soulager un peu les populations, vraiment qui ne savaient plus où se diriger. C'est pour dire que les démolitions ont été faites tout à minute, sans prévention préalable.
Monsieur Kone Kalilou, est-ce que vous trouvez ces mesures d'accompagnement du gouvernement pour les populations déguerpies suffisantes?
Bon, on ne va pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà un pas déjà. Du moment où le gouvernement a l'intention déjà de reloger ses familles, c'est déjà un pas déjà. C'est à saluer, mais je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Parce que dans ces mesures, on nous dit que c'est des surfaces de 75 à 100 mètres carrés. Quand même, on trouve que c'est peu. Mais bon, pour le moment, je pense que les populations vont accepter ça pour pouvoir avoir déjà un toit. C'est le plus important d'abord.
Kone Kalilou, représentant des populations déguerpies du quartier Boribana. Parmi les mesures prises par le gouvernement à l'endroit de ces populations déguerpies, figure une aide au relogement à hauteur de 205 000 francs par ménage. Les populations abidjanaises se sont prononcées sur ces mesures. Voici donc leur avis.
C'est bien. Moi, je crois que c'est bien. Ça pourra sûrement les aider à se reloger d'une manière ou d'une autre. Mais après, je me dis que l'État peut mieux faire. Au lieu de remettre de l'argent, ça serait mieux de faire des logements sociaux, reloger ces personnes-là avant de passer aux casse.
Ça ne pourra pas peut-être aider les personnes qui ont perdu leur maison, mais je pense que ça va peut-être diminuer la colère qui est dans leur cœur. Donc, c'est une bonne initiative.
Je pense que c'est très peu. Ça, 250 000 aujourd'hui, ça ne peut rien faire, franchement. C'est peu. Au moins, ils auraient pu les reloger. C'était mieux même que ce montant-là, je trouve.
Ils auraient dû prendre ces mesures au préalable. Dans leur démarche, je pense que même si les gens ne seront pas entièrement satisfaits, il y a une envie au moins d'aller dans ce sens-là.
Je trouve que c'est suffisant déjà, parce que le fait de donner ça avant, on décrépissait seulement des maisons, on ne donnait rien, il n'y avait même pas l'espoir. Mais après, avec ces 250 000, quelqu'un peut se retrouver, il peut trouver même quelque part où aller d'abord habiter en attendant. Donc moi, je trouve que c'est mieux.
C'était les avis de population sur la mesure de relogement prise par l'État en faveur des déguerpis. Affaire drogue découverte à Abidjan et San Pedro. Le procès suit son cours. Une audience s'est tenue au pôle pénal économique et financier hier jeudi, mettant en avant les accusés Hussein Tan et Coco Mauricio, tous deux incriminés dans cette affaire de trafic international de cocaïne et de fraude fiscale. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Dès l'entame du procès, les avocats de Hussein Tan ont demandé une suspension de l'audience pour non-conformité des pièces en leur possession. Une requête acceptée par la présidente du tribunal. Lorsque le procès reprend son cours normal, le procureur de la République et la partie civile veulent comprendre l'implication du fondateur de Pasta Pizza avec les présumés cerveaux de ce vaste réseau de trafic de cocaïne que sont les frères Antonio Bruzaniti et Bartolo Bruzaniti, tous deux non présents à ce procès. En affaire avec Antonio Bruzaniti sur l'établissement Pasta Pizza, Hussein Tan dit ne pas connaître les antécédents de son associé, car lui ayant présenté un casier judiciaire vierge, c'est donc sur cette base qu'ils ont monté leur affaire. Afin de démontrer les limites de l'instruction, Maître Rodrigue Dadje, avocat du Saint-Tan, a fait remarquer au tribunal que le dossier de son client est vide car le parquet se base sur des recherches Facebook et conversations de groupe WhatsApp à laquelle son client n'a aucunement participé. Tout comme Hussein Tan, il est reproché à Coco Mauricio, cet ingénieur italien, d'être au centre de cette affaire de trafic de drogue à travers son établissement Italia Service spécialisé dans le BTP. Associé à Antonio Bruzaniti, il lui est reproché de faire la fraude fiscale, une chose qu'il refute car pour lui, Antonio Bruzaniti n'intervenait pas dans la gestion de l'entreprise, même s'ils étaient associés. Après avoir entendu toutes les parties prenantes à ce procès ce jour, la présidente du tribunal a mis fin à la séance et est reportée à jeudi prochain pour la poursuite des interrogatoires. Près de 24 personnes sont poursuivies dans cette affaire.
Les agents des collectivités décentralisées accusent une grève depuis le mercredi 13 mars et ce jusqu'au 15 mars sur toute l'étendue du territoire national. Pour cause, le paiement de toutes les primes annoncées par le président de la République à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État, explique l'adjudant-chef Asia Mouk, secrétaire général de la SINAPOMUSI, le syndicat de la police municipale de Cocody.
Sur le territoire ivoirien, il y a eu 80% des mairies qui ont fermé pour revendiquer le départ à la retraite. Les collectivités payent dans les agents quand ils vont à la retraite. On paye le départ à la retraite. Le DG, il a fait suspendre ça jusqu'à aujourd'hui. On revendique que cela soit payé dans l'immédiat. Plus l'indemnité de logement, y compris les autres primes, c'est-à-dire 13e mois. C'est tous ces primes-là que nous réclamons. Ils ont donné instruction aux collectivités de mettre dans le budget, mais de prévoir quand ils vont signer les arrêtés. Mais depuis que le président a parlé, on est dans la troisième année, vous n'avez pas encore signé décret. Dieu merci, ils sont en train de parler avec nos responsables. Les quatre syndicats responsables signataires de cette grève-là sont en train de parler avec le DG de la décentralisation. à la sortie de là-bas, ce qu'ils vont nous dire, si on va continuer la grève ou pas, on va aviser.
À l'instant, l'adjudant-chef Aziamouk, secrétaire général de la SINA Pomussi, le syndicat de la police municipale de Cocody. Cette grève, selon le directeur général de la décentralisation et du développement local, est illégale au vu des travaux mis en œuvre pour la prise en compte de ses revendications. Nous écoutons à cet effet Fidèle Yapi.
Nous avons un projet que nous avons mis en œuvre avec un partenaire qui est la Banque africaine de développement qui a pour objet de mettre en œuvre le décret 2013 relatif à la mobilisation des ressources propres des communes par voie électronique. Ce décret permet aux collectivités de digitaliser leurs recettes propres. Des expériences ont eu lieu, ont donné des résultats probants. Malheureusement, les tests d'application de ce décret ne sont pas effectifs. Il se trouvait qu'on a mis la charrue avant les bœufs pour donner un agrément, mais on n'avait pas de matière. Un opérateur vient, il nous donne un cahier de charge, on ne connaît pas la matière. C'est la collecte des recettes propres par voie électronique. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, nous ayons un outil central qui peut recueillir les informations. Mais nous ne disposons pas de l'outil. Donc nous nous avons demandé avec le partenaire de nous permettre de bâtir l'architecture centrale. C'est la base de chaque collectivité. Donc l'outil que nous développons et qui va permettre de renforcer les capacités des communes, cet outil-là sera mis à leur disposition. Donc pour le moment, on travaille sur cet outil. C'est le projet d'appui à la mobilisation des recettes propres AMAREC. Tous les opérateurs qui veulent mobiliser les recettes par voie électronique, accompagner la mobilisation des recettes par voie électronique, on va regarder, on va les juger au travers de notre outil.
Voilà, nous avons eu un tout petit souci technique. Là, maintenant, nous allons vous proposer le son de Fidèle Yapi sur donc la grève qu'il juge illégale.
La grève que vous observez dans les mairies, sur le principe juridique, est illégale pour plusieurs raisons. Les acteurs qui sont concernés par la grève, qui est la plateforme des syndicats, m'a adressé un préavis de grève en date du 28 février, alors que nous étions en pleine conférence budgétaire pour examiner les programmes et les budgets des collectivités. Ils devaient prendre en compte les mesures sociales, les revendications que l'ensemble de la corporation a exprimées. Il s'agit de quoi ? Des mesures sociales que le président de la République a octroyées aux fonctionnaires et agents de l'État. A priori, ils ne sont pas concernés. Donc, il fallait transformer les tests pour les prendre en compte. Le 6, je reçois un arrêt de travail. Pour le 13, on a proposé l'organisation d'une réunion le 12 pour résoudre tous les problèmes, faire le point de ce qui a été fait et donner les informations concernant l'évolution des revendications. On donnait des instructions aux maires et aux présidents d'inscrire dans leur budget une provision pour prendre en compte les mesures sociales et le droit de départ à la rue. Il faut être vraiment un extraterrestre pour imaginer que quelqu'un qui initie un télégramme officiel, une structure qui initie un télégramme officiel refuse de l'exécuter.
À l'instant, Fidèle Yapi, directeur général de la décentralisation et du développement local, nous nous excusons pour ce petit désagrément technique. Dans l'actualité sur le continent, en Centrafrique, cela fait 3 mois que le député d'opposition Dominique Yandoka est aux arrêts, interpellé le 15 décembre dernier et placé en détention malgré son immunité parlementaire. Dominique Yandoka est accusé de complot et tentative de coup d'État après avoir été pris en flagrant délit selon le parquet. Ses avocats et sa famille continuent de demander sa libération. Alors que la procédure n'avance pas, ils demandent une prise en charge médicale car le député souffre de problèmes cardiaques et rénaux accentués par sa détention, a expliqué sa fille Ashley Yandoka. Et un mot de sport avant de refermer ce journal. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu hier à Ebimpe en compagnie du président de la Fédération ivoirienne de football afin de présenter le trophée aux populations de ce village. Didier Blé y était pour nous, suivons son compte-rendu.
Deux mois avant le début de la CAN, l'État de Côte d'Ivoire, par le truchement du Premier ministre, avait confié la bonne campagne des éléphants aux populations des Bimpé. Un mois après la victoire, c'est le retour vers ces mêmes populations pour les remerciements et leur présenter le fameux trophée Robert Begré-Mambé.
À l'occasion de notre visite, vous nous avez dit que si Dieu le veut, le jour où vous aurez la coupe, revenez ici, en ce même lieu, pour nous présenter la coupe. Nous avons donné notre accord.
Pour le chef du village de Bimpé, Nana Mondon-Pakom, ce geste de reconnaissance est un symbole fort.
Nous vous remercions pour votre grande proximité envers les populations des Bimpé. L'image est mondiale et Bimpé, c'est désormais une marque de luxe.
Une célébration qui offre l'occasion tout de même de quelques doléances.
Il s'agit de présenter au gouvernement un projet dit Bimpé Nouvelle. Un grand projet structurant et d'infrastructure qui serait une proposition de réponse au développement d'Abidjan. Merci de nous donner la chance de rêver.
Une célébration qui offre l'occasion tout de même de quelques doléances.
Il s'agit de présenter au gouvernement un projet dit Bimpé Nouvelle. Un grand projet structurant et d'infrastructure qui serait une proposition de réponse au développement d'Abidjan. Merci de nous donner la chance de rêver.
Le trophée a été remis de façon symbolique à la chefferie des Bimpé qui en retour a offert les clés de la cité au Premier ministre.
Et c'est donc ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À présent, le rappel des titres. Rapport 2022 de l'inspection générale d'État, il ressort du document présenté hier au vice-président de la République que 225 missions d'audit et de contrôle ont été réalisées par les agents de l'IGE. Le procès sur le trafic de cocaïne et fraude fiscale se poursuit. Les inculpés entendus hier au pôle pénal économique et financier d'Abidjan nient toute implication. Et ailleurs sur le continent, en Centrafrique, la famille du député d'opposition Dominique Yandoka plaide pour une prise en charge médicale de l'homme politique. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette édition. À présent, retrouvez votre magazine humanitaire avec Sonia Nzian.